Amis, frères et sœurs, mais je ne sais pas si je peux aller plus loin. Si ? Bon, allez, on y va. Chers amis, je trouve absolument extra ces petits moments qu'on ne décide pas et qui pour moi s'appellent en fait l'inattendu. Ça tombe très bien. Mais alors, raison de plus pour se souhaiter une bonne année, surtout que lorsque je vous regarde, de près comme de loin, je m'aperçois que je n'ai pas encore vu tout le monde. Alors je voudrais vous souhaiter une belle année 2023, avec une vie nouvelle et un cœur apaisé qui vous seront donnés de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus le Christ, son Fils, mais aussi notre frère et notre sauveur. Alors bienvenue pour ce culte qui rassemble aujourd'hui tous les enfants de l'école, l'éducation biblique. Mais bon, on est au mois de janvier, alors la grippe fait ses ravages. Bienvenue en particulier à l'ensemble des catéchètes de toutes les familles. Et bienvenue à l'ensemble des fidèles de l'oratoire du Louvre. Et bienvenue aux personnes nouvelles de notre paroisse qui franchissent le seuil de ce temple, peut-être pour la première fois. Alors que chacun et chacune de vous se sent ici, chez lui, pour ce moment où nous voulons nous mettre en présence de Dieu, écouter sa parole, la méditer. Et bienvenue à Alexandre Korovitch qui nous accompagne à l'orgue ce matin. Nous suivrons la liturgie pour ce dimanche qui est donc placée au tout début du psautier français. C'est la liturgie de l'éducation biblique. Alors, pour ouvrir ce culte, eh bien, je vous invite à vous lever pour chanter le premier répond. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Avec les paroles du psalmiste, nous louons Dieu. Éternel, ta présence est comme une pluie qui tombe sur un terrain moissonné, comme des ondées qui arrosent la campagne. Tu es promesse de vie au cœur même de l'aridité de notre vie quotidienne. Éternel, ta parole nous affranchit de l'oppression et de la violence. Car dans l'assurance de ton amour pour le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide, nous trouvons les mots pour te confier notre peur et notre espoir dans la promesse du règne qui vient. Nous puisons la force de choisir pour notre vie les chemins de la justice. Dans la certitude de ta fidélité, nous recevons l'audace de rencontrer et de témoigner. Merci, Éternel, pour nos cœurs, pour nos yeux qui s'ouvrent sur la simplicité de tes dons et pour la joie qui nous illumine. C'est par elle que ton règne s'avance parmi nous et que tous les rois se prosterneront devant toi et que toutes les nations te serviront. Je vous invite à poursuivre cette louange en prenant maintenant le chant du psaume 67b, dans le recueil du psautier français, et de ce psaume, nous chanterons les strophes 1 et 2. Place. Dans le livre du prophète Jérémie, nous lisons ceci. Voici quelle alliance je conclurai avec la maison d'Israël. Au terme de cette époque, dit l'Éternel, je ferai pénétrer ma loi en eux. C'est dans leur cœur que je l'inscrirai. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et ils n'auront plus besoin ni les uns ni les autres de s'instruire mutuellement en disant « Reconnaissez l'Éternel ». Car tous, ils me connaîtront, du plus petit au plus grand, dit l'Éternel, quand j'aurai pardonné leurs fautes et effacé jusqu'au souvenir de leurs péchés. Ensemble, prions. Qu'est-ce qui est important à nos yeux? Quelles sont les personnes que nous regardons avec attention, que nous sommes fiers d'avoir dans nos relations? Celles qui ont la connaissance, le savoir, l'intelligence, celles qui ont de l'influence sur la marche de notre monde, celles qui ont la force, l'autorité et le pouvoir, et dont les désirs sont des instructions, celles qui ont la richesse, la fortune, la réputation, qui sont respectées et admirées. Éternel, par la bouche de ton prophète, tu dis que tout cela ne vaut pas grand-chose, mais que le plus important, c'est de te connaître. Alors, voici notre prière. En cette année qui commence, accorde-nous la grâce de savoir que tu es Seigneur. Et nous te remettons nos vies, nos journées, nos occupations, notre travail, nos relations. Nous te remettons nos pensées, nos sentiments, nos rancunes, nos désirs et nos amertumes. À toi, notre Dieu, nous remettons notre foi, notre prière, notre témoignage, notre vie intérieure, notre pèlerinage. Amen. Accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, et je te garde ma fidélité, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Rassemblés par l'amour de Dieu, nous restons debout pour confesser notre foi. Nous croyons que Dieu est le Père de tous les hommes, de tous les peuples, de toutes les races. Personne n'est exclu de son amour. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fonde la dignité et l'égalité de tous les hommes. Dieu, le Père, a donné la terre à tous et pour tous. C'est ce qui fonde la solidarité. Les biens de la création doivent affluer dans les mains de tous. C'est le plus sûr chemin de la paix, car la paix est le fruit de la justice. Nous croyons que Jésus est le frère de tous les hommes, et spécialement des pauvres. C'est lui que nous avons vu avoir faim, être nu, étranger, prisonnier ou malade. Nous croyons que celui qui juge, humilie ou calomnie tout homme, juge, humilie, calomnie Jésus-Christ, car tout homme a le visage du Christ. Nous croyons que Jésus-Christ, par sa vie et ses paroles, nous dit qui est l'homme. Jésus-Christ ressuscité nous donne l'Esprit de Dieu. Nous croyons que l'Esprit est esprit de liberté, esprit de tolérance, esprit de justice, esprit de paix. Il accueille au lieu d'exclure, il respecte au lieu de condamner, il ouvre les portes et ne les ferme jamais. Nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. Amen. Alors, est-ce que c'est le moment? On écoute la parole?
D'accord.
Très bien. Alors, gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Prenez place. Alors, comme le thème de l'éducation biblique cette année s'intitule « Jésus dans tous ses états », aujourd'hui, nous allons lire un extrait de l'Évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 41 à 52. Quant à l'enfant, il grandissait et se fortifiait tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, comme ils y étaient montés suivant la coutume de la fête, et qu'à la fin des jours de fête ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Et c'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter et à les interroger. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. En le voyant, ils furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. Jésus progressait en sagesse et en taille et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Merci, merci Seigneur pour cette parole. Enracinée dans le concret des jours, enracinés dans la vie, enracinés dans l'espérance. Amen. Et nous prenons dans le recueil Louange et prière le numéro 216 qui s'intitule « Seigneur, que ton règne adorable ». De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 et je vous invite à vous lever. Pendant ce temps, les enfants de l'éducation biblique vont partir avec leur monitrice, peuvent rester s'ils le souhaitent, les enfants du catéchisme, les jeunes du catéchisme. À tout à l'heure. Prenez place. Prions. Éternel, au début de cette année et tout au long de cette année, par ton esprit, enracine-nous dans la parole. Celle que tu nous dis à travers les témoins de la Bible. Enracine en chacun de nous cette parole qui est ton oui fidèle, ton oui inconditionnel envers chacun et chacune de nous. Et ainsi, donne-nous le courage de la liberté, le courage de nos choix, le courage de nous tenir droit, le courage d'être nous-mêmes. Comme tu veux que nous le soyons. Et ceci peut se faire, peut se vivre, au nom de ton amour manifesté en Christ, dont rien, absolument rien, ne peut nous séparer. Amen. Amis, sœurs et frères, le récit que raconte Luc est unique dans les évangiles. C'est la fête de la Pâque et le traditionnel pèlerinage à Jérusalem. Et Jésus y va avec ses parents. Le pèlerinage touche à sa fin, tout le monde prend le chemin du retour et c'est à ce moment-là que les parents perdent leur fils. Ils le cherchent parmi leur famille et leurs connaissances, pas tout de suite. Mais ne le trouvant pas, ils retournent à Jérusalem où ils retrouvent leur fils au temple. Alors nous sommes devant une histoire sobre, originale, singulière, entourée d'une sorte de petit refrain qui encadre le récit. L'enfant grandissait et devenait fort au tout début. Et à la fin, Jésus était rempli de sagesse et la grâce ou la faveur de Dieu était sur lui. Alors sans doute parce que Luc était médecin, alors il écrit quelques mots qui concernent la croissance de l'enfant, son acquisition progressive d'une sagesse qu'il qualifie de sagesse de Dieu. Et c'est ce récit qui va être l'exemple de cette sagesse et de cette grâce. Ce récit est un sommet de l'histoire de l'enfance de Jésus, mais aussi une conclusion. Un sommet parce que l'on découvre Jésus délivrant son premier message, ses premières paroles, qui prennent d'ailleurs l'allure ambiguë d'un reproche. « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Et une conclusion formalisée par l'obéissance de Jésus, rentrant finalement à Nazareth avec ses parents. Et ce récit clôture les deux chapitres de l'enfance de Jésus. Il faudra attendre une vingtaine d'années, pendant lesquelles d'ailleurs on ne sait rien de lui, pour retrouver Jésus adulte au commencement de son ministère en Galilée. Mais où est passé Jésus ? Les parents s'aperçoivent au bout d'une journée que leur fils n'est pas avec eux. Il était temps. Ils partent à sa recherche. Peine perdue, alors ils retournent à Jérusalem et ils le retrouvent. Ouf ! Un fils perdu et retrouvé ouvre l'évangile de Luc. Jésus en fera une parabole plus tard dans ce même évangile et uniquement dans cet évangile. Les parents trouvent dans le temple leur fils en train de dialoguer avec les maîtres ou les docteurs de la loi. On découvre alors un enfant attentif dont on suppose la vivacité d'esprit qui fait l'admiration de ceux avec qui il parle, dont on nous dit qu'ils sont stupéfaits et de ses questions, de ses réponses. Les parents retrouvent leur fils au temple de Jérusalem, autrement dit dans le sein même de l'institution religieuse. Jésus est retrouvé assis au milieu des maîtres, autrement dit au milieu de ceux qui savent, au milieu de ceux qui connaissent la Torah, la loi de Moïse et qui peuvent l'interpréter. Jésus écoute, il questionne et malgré son jeune âge, il est déjà un maître. En tout cas, c'est ce que l'évangéliste Luc veut faire passer comme message. Assis au milieu des maîtres, Jésus est accueilli comme un égal par rapport à eux. Jésus n'est pas dans la position de l'élève ou du disciple assis au pied du maître. Il est déjà un maître. Il est donc capable d'exprimer ce qu'il sait, ce qu'il croit à propos de la Torah. Il sait partager avec eux ce qu'il a compris de ce qu'on lui a enseigné ailleurs, que ce soit à la synagogue ou en famille. Et en le traitant en égal, Les maîtres prouvent en quelque sorte la sagesse de l'enfant précoce dans sa réflexion et sa discussion et authentifient en quelque sorte sa méthode reconnaissable. Il écoute et il questionne. Et il se risque sûrement à des questions difficiles, à des réponses difficiles, mais il va jusqu'au bout. Et tous sont stupéfaits de son intelligence qui ne réside pas seulement dans la nature des réponses, mais qui concerne la personne même de Jésus. C'est ce que Luc souhaite transmettre par ce récit. La capacité de Jésus à être un rabbi, un maître, un enseignant avant l'heure. Mais aussi quelqu'un qui écoute, qui questionne, qui répond, qui se remet en question, tout en remettant les autres en question. Alors c'est peut-être cela que les maîtres découvrent en lui, sa capacité à avoir intégré la Torah, non pas comme un impératif indiscutable, mais au contraire comme un chemin de vie et de liberté. Et ce que Jésus partage avec eux, au fond, c'est sa relation personnelle avec Dieu, avec son Père. Et il ne vérifie pas seulement auprès d'eux ce qu'il sait de la Torah, mais il partage avec eux comment il la vit déjà et comment il la met en pratique, ou du moins comment il pense la vivre et la mettre en pratique quand il sera plus grand. Et sans aucun doute, les maîtres qui écoutent cet enfant le trouvent passionnant et peut-être se sentent-ils valorisés de sentir leur admiration se porter sur cet enfant au comportement inédit. Évidemment, cela le sera beaucoup moins plus tard quand Jésus, devenu adulte, continuera de pousser les maîtres de la loi dans leur retranchement, prononçant à leur encontre des critiques si criantes de vérité qu'ils préféreront le voir mourir. Ce récit est une transition par laquelle Luc fait passer ses auditeurs, puis ses lecteurs, ce que nous sommes aujourd'hui, pour qu'ils puissent cheminer dans la relation de foi qui se révèle et qui s'organise entre Jésus et Dieu. Cette relation entre le Père et le Fils part de l'Annonciation faite à Marie au tout début du, au début du chapitre 1 jusqu'au baptême de Jésus adulte au chapitre 3. Et la profondeur, la particularité de cette relation qui unit Jésus à Dieu se trouve exprimée dans la seule phrase prononcée dans ce texte par Jésus, répondant à ses parents « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Avec ce récit, nous sommes témoins de l'irruption de la nouveauté qui va être la marque de la bonne nouvelle. L'inattendu de l'Évangile se concrétise. Et cela commence par l'opposition entre le programme des parents et celui de l'enfant. La volonté des parents tient au respect de la loi. La volonté de Jésus réside dans la révélation nouvelle. Au début du récit, Joseph et Marie se comportent selon la coutume, fidèles à la loi. Ils vont à Jérusalem pour la Pâque et voilà que l'inattendu se produit. Le jeune Jésus reste à Jérusalem. Le retour à la normalité passe par les parents qui cherchent leur fils. C'est une réaction saine, mais l'inattendu se reproduit quand ils le trouvent dans le temple, assis avec les enseignants. Les parents retrouvent encore le bon rôle quand Marie interpelle Jésus en lui disant « Mais mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et l'inattendu de la réponse de Jésus, remettant tout de même, d'une certaine façon, ses parents en place, Mais pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Et le récit se conclut par la réaction des parents qui ne comprennent pas ce que Jésus leur dit. Comme s'ils restaient fermés au programme de la nouveauté qui se met en place avec leur fils. Comme si Marie ne se souvenait pas de l'annonciation qu'elle a reçue. Comme si la naissance virginale avait disparu, pourtant située juste au tout début du chapitre 2. Comme si cette naissance avait disparu au profit de la mise en valeur discrète et tout autant inattendue de la paternité de Joseph. L'écriture de Luc se situe dans la logique du programme annoncé. Tout est clair pour celui qui lit l'Évangile, mais au fond, rien n'est clair pour ceux qui vivent l'événement. Le récit veut marquer une opposition entre l'exceptionnelle compréhension manifestée par Jésus et l'incompréhension de ses parents, qui ne semblent pas pouvoir dépasser le niveau des réalités coutumières, des valeurs de la religion, de la famille qu'ils représentent parfaitement. Ils n'arrivent pas encore à accéder à l'ordre des valeurs nouvelles dont leur fils va être le porteur. Et au fond, c'est peut-être le cas pour nous aujourd'hui. Ce récit n'est que les prémices de la bonne nouvelle qui attend le monde. Jésus n'a que 12 ans. L'enfance n'est pas encore tout à fait terminée. Il faut attendre encore quelques années. Et le récit se referme doucement sur cette phrase qui marque la nécessité de réfléchir. Sa mère retenait toutes ces choses, qui fait écho à une autre phrase, quelques versets auparavant, après la naissance à Bethléem. Marie retenait toutes ces choses dans son cœur et elle y réfléchissait. Dans la Bible, le cœur est le siège de la raison et du discernement. Personne, absolument personne, n'a la science infuse pour comprendre les histoires bibliques. Il faut du temps pour y réfléchir et de la distance pour les recevoir. Nous sommes invités, nous aussi, à garder ces histoires dans nos cœurs jusqu'au jour où elles prennent sens dans nos parcours de vie. Marie est présentée comme celle qui garde ses paroles en son cœur. Elle emmagasine les événements sans les décoder. Au fond, elle n'est pas plus avancée dans l'interprétation des événements qui arrivent à Jésus ou au sujet des paroles qu'il prononce. Cet épisode de Jésus à 12 ans et tous les récits de l'enfance racontés dans l'évangile de Luc s'achèvent dans une certaine ambiguïté. On pressent une rupture entre Jésus et ses parents, mais elle n'est pas encore consommée. Il retourne à Nazareth. Il vit avec eux une vie ordinaire, avec cette précision. Il continuait à progresser en sagesse, en taille, en faveur, en grâce auprès de Dieu et des hommes. Avec le Dieu de Jésus-Christ, foi et religion ne se confondent pas. Il n'y a pas de doctrine prête à croire. Le Dieu de Jésus-Christ se laisse rencontrer dans l'intimité de chacun. Et même si Jésus-Christ est considéré et appelé maître, il a sa façon personnelle de vivre sa relation avec Dieu dont les évangiles se font l'écho. Jésus, enfant, a échappé un temps à ses parents. Cela continuera par la suite, chaque fois que le peuple voudra instrumentaliser Jésus en voulant le faire roi, par exemple, il s'échappera. Tous le chercheront, mais ne le trouveront pas. Où est passé Jésus ? Il vient de partir en barque sur l'autre rive, ou alors il est à l'écart, dans la montagne. À la résurrection, on le cherchera alors que le tombeau est vide et la seule réponse sera « Il vous précède en Galilée ». Et cela continue. Jésus est toujours dans un ailleurs insoupçonné. On ne peut pas mettre la main dessus. Il est en mouvement, c'est normal, il est la vie. Aujourd'hui, frères et sœurs, amis, c'est à nous de déchiffrer tous les enseignements que les évangélistes nous ont laissés. Par tous les récits qui sont autant de témoignages, nous pouvons deviner la foi qui animait Jésus et qui le reliait à son Père. En les actualisant, ils rejoignent nos vies. Et si on ne comprend pas tout du premier coup, ah, c'est tant mieux. Parce qu'ici, dans le lieu où nous sommes, nous pouvons croire et nous interroger en même temps. Mais nous pouvons aussi faire cette expérience incomparable, où nous pouvons être saisis par une parole, un geste, un événement qui, contre toute attente, nous raccroche à la vie et réenchante notre existence. Alors, si jamais c'est le cas, alors nous comprendrons comment Jésus continue toujours de s'occuper des affaires de son Père, c'est-à-dire de chacun et de chacune de nous dans son amour sans condition. Amen. Dans le recueil Louange et prière, nous prendrons maintenant le numéro 309. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 et je vous invite à vous lever. Prenez place. Et je cède la parole maintenant à Aurore Saglio-Thébault, présidente du conseil presbytéral de notre église.
Merci Agnès. Locale. Merci Gérard.
Locale. Église locale.
Locale. Oui. Ça va?
Moi, oui, ça va.
Je t'ai pas fait trop mal?
Non, ça va.
Bonjour à tous. Alors, à ceux qu'on n'a pas vus dimanche dernier et encore moins dimanche d'avant, 1er janvier, bonne année. Vraiment tous nos vœux, tout ce que vous souhaitez, et comme dit le chat Guéluc, tout ce que vous souhaitez en mieux. Voilà, donc avec, vous avez vu avec Agnès, on n'arrête pas de se souhaiter bonne année, c'est agréable. Cette semaine, tout reprend, je ne vais pas vous citer toutes les annonces, en revanche, groupe œcuménique avec toi, Agnès,
oui.
Et le père Yves Trochéry,
oui.
À l'église Saint-Eustache.
Oui.
De quelle heure à quelle heure?
De 19h à 20h30.
Voilà, donc rejoignez le groupe œcuménique à Saint-Eustache mercredi. Samedi, vous avez entendu aujourd'hui à l'orgue Alexandre Korovitch. Samedi prochain, il est notre chef de chœur. Le Venez chanter reprend, le chœur revient dimanche prochain. Donc samedi prochain, n'hésitez pas à venir répéter les cantiques de dimanche prochain avec Alexandre Korovitch en chef de chœur. Et samedi prochain, à la même heure, parce qu'ils aiment bien se mettre en concurrence, nous avons aussi le pasteur Gilles Castelnau qui vous initie à l'hébreu biblique. Donc samedi, hébreu biblique, répétez, venez chanter. Un tout petit peu de prospective. Alors je ne vais pas résumer la feuille rose en 36 pages qui est sortie. Néanmoins, j'attire votre attention sur samedi, sur les deux prochains week-ends. Les trois prochains week-ends, 21 janvier, je viens d'en parler, le week-end du 4-5 février. Le 4 février, nous avons, j'ai parlé d'Alexandre Korovitch, nous avons Sarah Kim, organiste co-titulaire, qui, avec son frère, vient nous donner un concert spirituel avec nos pasteurs, samedi 4 février, donc c'est vraiment important. C'est en général sublime et elle nous propose des rêves bibliques le samedi 4 février. Le dimanche 5 février, nous aurons, dans le cadre de la semaine de l'unité des chrétiens, où toi tu vas prêcher le 23, je crois, à Saint-Eustache.
Ou le 26, mais c'est...
Ou le 26.
Oui.
Le 5 février, nous aurons ici le père Ézard... Ah ben, si j'oublie son nom, c'est pas bien. Le père Ephrem Hazard.
Oui.
J'en suis désolée, un père dominicain, très engagé sur l'Irak. Vraiment, écoutez-le sur Radio France, sur France Culture. Regardez tout ce qu'il fait. C'est absolument passionnant. Il nous fait la joie de venir prêcher le dimanche 5 février ici. Le week-end d'après, qui est le week-end suivant de l'éducation biblique, le 12 février, 12 et 13 février, 11 et 12 février, pardon, le 11, je ne sais plus ce que je voulais vous annoncer, mais il y a des choses importantes. À nouveau le chœur, pardon, à nouveau le chœur, le 11 février, répété, chanté, et à nouveau le grec biblique. Mais surtout le dimanche 12 février, nous avons un événement extrêmement émouvant pour le conseil presbytéral, et j'allais dire pour toute la paroisse, et également la ville de Paris, car la ville de Paris, le 12 février prochain, dévoilera une plaque qui sera, vous voyez, juste le monument 14-18. En face, vous avez des plaques déjà données, décernées à l'Oratoire du Louvre par des Américains sur le comportement de la communauté de l'Oratoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Juste en face, nous aurons une plaque dévoilée en mémoire du sauvetage, d'une opération de sauvetage de 63 enfants juifs par la communauté de l'Oratoire, avec aussi une communauté juive extrêmement importante, des femmes juives, des femmes protestantes, qui se sont levées pour venir sauver 63 enfants juifs, à la demande du pasteur Paul Vergara. Donc le 12 février à 15h, nous aurons les enfants de l'éducation biblique qui seront là. J'espère que nous aurons les parents et grands-parents de l'éducation biblique qui seront là. Nous aurons également les scouts, éclaireurs et éclaireuses, parce que les éclaireuses de l'Oratoire du Louvre ont joué un rôle très important dans ce sauvetage des enfants juifs, sauvetage de la déportation, en février 43. Donc ça se passera le 12 février à 15h. Le 12 février également, juste après le culte, de 12h à 13h, nous aurons la chance d'avoir Anne Vergara, qui est donc la petite-fille du pasteur Vergara, qui viendra parler du livre de son papa, qui a été Sylvain Vergara, donc le fils du pasteur Vergara, qui s'appelle « Les chemins de l'aube », et qui a été notamment souligné par Ariane Chemin récemment dans un article du Monde. Et nous parlerons donc de ce livre de Sylvain Vergara de 12h à 13h le 12 février. Voilà. Je ne résumerai pas encore une fois toute la feuille rose. Vous la retrouverez à la sortie. Vous aurez toutes les activités. Un dossier compliqué, sur un sujet compliqué, qui est la misologie, mais nous vous laissons le temps de le lire et de le digérer et de le pratiquer ensuite. Et également, regardez bien la page 34 sur laquelle nous avons déjà un certain nombre d'événements à souligner sur ce semestre. Voilà.
Je voudrais juste dire que exceptionnellement, il n'y aura pas de pause spirituelle jeudi 19, parce que avec le groupe, on s'est dit que ce serait compliqué de se rendre pour une petite heure à l'oratoire alors qu'il y a une bonne grève qui est prévue.
Voilà. Donc le 19, tu ne fais pas grève, mais...
Non, moi, je ne fais pas grève, mais...
Voilà.
Voilà. Quoique.
Merci à nous. Vous verrez, nous militons pour des pasteurs dûment formés et rémunérés. C'est un vrai sujet, qui est le sujet aussi de la feuille rose. Je vous donne juste un chiffre. En région parisienne, nous sommes censés être 60 pasteurs. Enfin, nous sommes censés avoir dans nos églises 60 pasteurs. Nous n'en avons que 40. Et ce n'est pas une question d'argent, puisque nous avons les moyens, si vraiment nous voulions, de les rémunérer, de les former et de les recruter. Mais encore faut-il essayer de repenser la fonction du pasteur dans nos églises, parce qu'il ne tombe pas du ciel. Voilà. Donc c'est important d'être auprès d'eux et de les remercier. Et je te remercie, Agnès, au nom du conseil presbytéral, au nom de tous les paroissiens. Et je remercie également Béatrice, qui est épuisée et touchée par le virus de la grippe. Donc clouée au lit aujourd'hui, je lui fais coucou par la caméra, mais elle est très très mal. Et elle doit vraiment être très 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 mal, parce que du coup elle n'est pas avec les enfants pour le mini-culte. Mais je remercie les monitrices de l'école biblique qui vont prendre le relais. Merci à tous, bonne année à nouveau, et je te laisse lancer l'offrande, Agnès, s'il te plaît.
Alors nous allons donc recueillir votre offrande, que chacun donne ce qu'il a décidé en son cœur, sans regret ni contrainte. L'offrande recueillie aujourd'hui est destinée à la vie de notre Église, parce que c'est de cette manière que vous l'aidez à rendre témoignage. Unissons-nous dans la prière les uns pour les autres. Éternel Dieu de la vie, nous te prions pour tous ces autres qui peuplent la terre avec nous, pour ces prochains et ces lointains, sans qui nous ne serions que des Robinsons, prisonniers de son orgueil solitaire. Nous te prions pour tout ce qui nous est en commun au long des siècles et des continents, tissant la longue tapisserie de l'humanité. Nous te confions tout ce qui nous fait différents et dont les couleurs font chanter le tissu de la vie. Donne-nous d'accueillir la richesse de ces diversités et d'y saisir la dimension de ton amour. Nous te confions ceux qui nous sont le plus proches, nos familles, nos amis, nos voisins, nos camarades, nos collègues, qui cheminent à nos côtés au long des jours, nous apportant chaleur, réconfort et souci aussi. Nous te confions la vie qui continue dans notre monde, malgré les épreuves, malgré les chagrins, les solitudes, les deuils. Envoie-nous des compagnons fraternels quand nous déprimons, lorsque nous désespérons. Mais tout au long de cette année qui s'ouvre, donne-nous chacun pour notre part d'être ce petit chaînon joyeux de la grande caravane humaine, inlassablement et résolument en marche vers cet avenir que Jésus, ton Fils, nous a dépeint tout au long de son ministère et qui a débuté ce jour-là, alors qu'il te découvrait ou te faisait découvrir dans le temple de Jérusalem. Un avenir sans cesse réinventé aux couleurs multiples de l'espérance. Et nous rassemblons nos prières dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amis, frères et sœurs, une petite exhortation pour continuer la route aujourd'hui et pour les jours qui viennent. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux,
Priez sans cesse. Rendez grâce en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors, que l'Éternel fasse rayonner sur vous l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun et chacune d'entre nous, et qu'ensemble qu'il nous garde dans son amour, qu'il nous bénisse et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Très beau dimanche à tous.